Dans le collimateur, le balado de veille du Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire de l'Université du Québec à Montréal. Cet épisode s'inscrit en amont de la journée d'échange du 24 avril 2024, portant sur les opportunités pédagogiques de l'IA générative en enseignement supérieur. Pour plus d'informations, accédez au site enseigner.ucam.ca. Conversation sur la littératie de l'IA en éducation. La conclusion.
Nous terminons ici notre discussion ensemble. Alors, Sir Léa Rosa, qui est de l'ESG, conseillère chargée de projets technopédagogiques.
Ça me fait un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui.
Sandrine, tu peux te présenter de nouveau peut-être pour les gens qui n'ont pas écouté le premier épisode?
Bien sûr, alors avec plaisir. Sandrine Promptet, professeure agrégée en département de marketing, donc spécialisée en marketing numérique à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM.
Et Florence Sedamino-Muratet, anthropologue et conseillère pédago numérique pour Collecto Éductive.
Et Yves Mon, chargée de projet pédago numérique au Carrefour.
Cette notion, en fait, du paradoxe de la vie privée. Parce qu'en fait, ce dont vous parliez, là où on est dans des collectes de données de plus en plus automatisées, donc physiques, psychologiques, et bientôt ça va être affectif. Donc on parle, nous, dans nos recherches, on parle d'empathie des chatbots. Moi, imaginez-vous, je fais de la recherche sur l'empathie des chatbots. Et quel effet ça peut avoir, justement, sur la réaction du consommateur, de l'utilisateur. Et donc, en enseignement, ce sont des éléments qui vont s'appliquer aussi, forcément, puisqu'on va tous développer nos tuteurs GPT personnels pour les disciplines et pour soi et pour ci et pour ça. Et finalement, c'est drôle parce que pendant longtemps, donc on a parlé de ce paradoxe puisque plus on veut un service fluide, une interaction fluide, plus il faut personnaliser. Et pour pouvoir personnaliser, il faut avoir les données. Et c'est exactement comme disait Florence, c'est comme à un moment donné, il faut en donner si on veut être capable d'en recevoir de l'autre côté. C'est un donnant-donnant.
C'est comme un guichet automatique. Ouais. Si tu ne le déposes pas, tu ne fais pas tirer.
Exactement.
J'essaie de faire des liens avec les sciences de gestion.
Non, c'est très intéressant, tout à fait. Et donc, c'est ça, on se retrouve à vivre dans un monde de traces numériques, de quantification de soi, hein, on le sait, avec nos montres, avec etc. Et c'est drôle parce que ça, c'est aussi lié à la façon dont on conçoit la vie privée. Parce qu'en réalité, si vous demandez aux plus jeunes aujourd'hui de vous parler de ce qu'est leur vie privée, pour eux, il n'y a pas un sacrifice de leur renseignement personnel. Ils ne voient même pas ça comme ça. C'est comme de toute façon, c'est tout là et c'est toute ma vie qui est en ligne. Donc, c'est comme si autrefois, on voyait ça comme un sacrifice de notre vie privée, alors qu'aujourd'hui, les plus jeunes vont percevoir ça comme une appartenance sociale. C'est-à-dire que si vous voulez être citoyen du monde aujourd'hui, il faut être citoyen numérique avant tout. Parce que c'est cette appartenance à la citoyenneté numérique, hein, vraiment digital citizenship, qui devient l'enjeu. Et ils veulent tout sauf être exclus de ça. Donc, s'ils veulent trop protéger trop leur vie privée, ça les exclut. Et ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Pour eux, au contraire, de pouvoir être présent, c'est être connecté à tous les autres. Et c'est ça qui les intéresse. Et c'est cette fluidité de service, c'est seamless. On ne s'en rend même plus compte. La médiation technologique, elle devient de plus en plus transparente. Hein. C'est vraiment l'idée de no interface. Là. On se retrouve où finalement on parle, on bouge et puis tout se passe autour de nous comme s'il n'y avait plus de commandes à faire, en fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on va voir avec le temps comment nous allons aussi redéfinir tranquillement nos espaces de vie privée. Est-ce que ça va être des espaces de vie privée comme avant, très basés sur la notion d'intégrité physique? Ou est-ce que, comme l'exemple du jumeau numérique, c'est dans l'espace numérique où nous allons avoir notre jumeau numérique, on va plutôt mettre des barrières à la façon dont on veut partager l'information. Mmh. Tous ces espaces-là vont devoir, évidemment, comme des vases communicants, s'ajuster parce que les notions de vie privée vont évoluer. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment ça va jouer aussi dans notre approche de l'apprentissage, mmh. et comme pédagogue et comme étudiant, forcément. Puisque là aussi, si on veut être mieux assisté, il va falloir beaucoup plus rapidement montrer ses faiblesses. Ouais. Mmh. Un étudiant n'est pas toujours intéressé à montrer en premier lieu ses faiblesses.
Un enseignant aussi.
Exactement, exactement.
Un enseignant aussi, effectivement. Ah, oui. Mais j'aimerais bien faire rapidement, si je peux, faire du pouce un peu et même ouvrir la perspective dans ce que tu dis, Sandrine, parce que... c'est sûr que j'ai un peu cette vision aussi, tu sais, avant d'être ici, ça va faire à peu près 7 ans, 8 ans que je suis au Québec, mais avant d'être ici, j'étais en Asie. Et quand je suis arrivée ici, c'est comme si aussi j'étais dans un autre monde, vraiment. Parce que les valeurs qu'on peut avoir dans nos sociétés occidentales peuvent être aussi complètement, différentes par rapport à l'acquisition de la technologie. Pourquoi ? Parce que je le vois aussi et je l'ai vu d'ailleurs quand j'enseignais à McGill, c'est des étudiants en fait qui venaient d'Asie qui n'avaient pas du tout les mêmes questions par rapport aux données que des étudiants québécois, ou aussi par rapport à dans quelle mesure en fait on se retrouve par rapport à l'adoption du numérique dans le monde. D'où l'intérêt aussi d'apporter aussi cette dimension quand on parle de collaboration. Je ne parle pas aussi nécessairement d'une collaboration territoriale, mais ce qui se passe justement avec l'intelligence artificielle, et on le voit, la facilité aussi à traduire un contenu d'une recherche en fait académique en japonais ou dans d'autres langues, nous permet aussi d'avoir une vision en fait académique très élargie de comment on peut collaborer aussi ensemble, parce que... Je le vois, en fait, j'ai encore beaucoup de collègues en Asie, notamment à Hong Kong et Singapour. On n'est pas au même niveau. On se pose actuellement aujourd'hui des questions qui sur lesquelles ils ont déjà travaillé depuis quelques années. Et parce qu'en fait, il y a cette, je dirais, notion d'éthique qui est très forte. Et c'est quelque chose, par contre, que je ne repousse pas. Je me trouve chanceuse d'être quand même dans une société où on a ces valeurs éthiques très fortes et qui peut faire barrière aussi au tout technologique qui va n'importe comment. Mais parce qu'on a ça, on est moins exposé frontalement au test en fait de la technologie de l'IA sur ce que ça peut faire sur nous. Donc ça nous permet aussi d'aller voir un peu, de regarder un peu de loin et puis de se dire, ah, regardez comment ça se passe là-bas. J'ai des fois l'impression qu'on est aussi dans l'entre-soi réflexif. Et que je pense qu'il faudrait aussi, quand je parle de collaboration, quand tu parles, Sirléa, de transdisciplinarité, il faudrait aussi que d'un point de vue géographique, pour mieux nous aider, nous, à comprendre, ouvrir nos horizons d'exploration. Parce qu'il y a, en ce moment, des pays, des sociétés qui travaillent sur cette question, mais parce qu'ils l'appliquent déjà. Tu parlais, Yves, tout à l'heure, de qu'est-ce que ça ferait l'IA. On parlait d'anthropomorphisme. Mm-hmm. Alors, tu peux imaginer quand même qu'au Japon, là où il y a déjà des gens qui se marient avec des entités numériques, que cette question de l'anthropomorphisme, elle a été déjà travaillée déjà. Tu peux imaginer ça. Et qu'il y a des classes actuellement au Japon qui ont des petits robots professeurs ou assistants du prof en sciences ou dans d'autres domaines. Et c'est déjà en train d'être appliqué. Donc peut-être que nous, ça pourrait aussi nous permettre de, je dirais, alimenter aussi ces espaces collaboratifs. Et tu sais, pourquoi pas, moi, c'est une vision que j'ai dans ce type de plateforme, en fait, comme Literacia ou d'autres plateformes ou d'autres moyens, en fait, de collaborer autour de ces questions, d'ouvrir, en fait, nos perspectives puis d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on est tous ici dans le même bateau, mais tu sais, il y a peut-être des bateaux qui sont un petit peu plus avancés, là, qui ont traversé peut-être une ou deux vagues. Alors, il y en a qui sont renversés, il y en a qui n'ont même pas conscience parce qu'on a quand même la chance d'y aller doucement.
Il y a certains qui sont au port.
Il y en a qui sont, ouais, il y en a qui sont déjà au port. Et je pense que ça, ce serait intéressant quand même de l'envisager aussi dans ces grands espaces de collaboration. L'ouverture aussi vers ce que font les autres. Je pense que c'est important.
Si je peux terminer sur le lien que Florence a fait entre ce que je disais tantôt par rapport au paradoxe de la vie privée et le côté d'éviter la bulle ethnocentrique locale et de s'ouvrir sur l'ensemble des cultures pour partager, comme on disait tantôt, nos pratiques, nos expérimentations, nos essais-erreurs. Je suis complètement d'accord avec le fait que, justement, cette conception ou cette conceptualisation de la vie privée est très variable d'une culture à l'autre. Et ça, c'est très vrai. On est vraiment, malheureusement, à cause de la technologie, surtout nous qui sommes collés sur les États-Unis, un peu trop, finalement, dans une perspective nord-américaine ou occidentale de la technologie. Et ça, c'est vrai. Il faut vraiment se le rappeler et bénéficier, finalement, de tout ce que peut nous apporter les autres cultures dans leur perception. L'exemple du Japon est très juste. Mm-hmm. Le fait qu'aujourd'hui, donc, vous pouvez aller à l'église avec des avatars qui prêchent. Donc, toute cette notion-là, c'est quand même incroyable. Là, ils sortent bientôt un show, un spectacle d'Elvis qui va être avatar. Mmh. Donc, il sera ressuscité, si on peut dire, sous forme d'avatar. Et les gens vont payer très cher pour aller suivre ce spectacle. Il y a des chatbots de jeunes femmes qui étaient tellement populaires sur leur compte Twitter et autres qu'ils ont décidé de créer carrément un chatbot qui allait parler à leur place. Et ils ont entraîné ce chatbot avec ses propres échanges. Donc, tous les échanges qu'elle avait eus avec un million de followers, donc de gens qui la suivaient sur les médias sociaux.
Oui, tout à fait. On dirait que c'est une vraie personne qui nous parle.
Des stars de K-pop, c'est
exactement.
Ça.
Mm-hmm. Donc, c'est fou, quoi. Donc, ça aussi, c'est une façon de revisiter, finalement, comment on conçoit non seulement la vie privée, son rapport à la vie privée, mais comment on conçoit aussi son rapport à la relation. Mm-hmm. Là, je ne veux pas tomber dans le classique du film Her, mais ça reste que... Ouais. C'est sûr que ces réalités-là, elles ont été plus explorées dans certaines cultures que d'autres, et que les barrières parfois sont politiques, comme on sait qu'en Chine, de toute façon, ils n'ont pas le choix d'être complètement transparents par rapport au crédit social. Mais il y a d'autres pays où, justement, on a négocié ça différemment d'un point de vue plus idéologique, on va dire, culturel. Et dans ce sens-là, c'est très important de tenir compte de ça parce qu'il y a un enrichissement possible majeur ici, justement, grâce à cette ouverture. C'est comme une opportunité extraordinaire qu'on a de repenser comment on va conceptualiser notre rapport à l'autre et à la connaissance. Donc, dans ce sens-là, c'est clair que c'est le temps là, d'aller s'inspirer de tous ces partages culturels-là, de toutes ces réalités culturelles-là, et de les partager à travers, finalement, ce nouveau prétexte qui est la compréhension et l'appropriation de l'IA. Je pense que c'est vraiment une moi, je vois ça de façon très positive dans ce sens-là. Je sais qu'on peut toujours voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, mais c'est une note optimiste que j'aime beaucoup laisser, en tout cas.
Moi, j'aime dire à moitié plein à 51%.
Oui, voilà, c'est ça.
Je te laisse aussi dire un dernier mot sur Léa, peut-être.
Je finissais ça avec un mot que j'amène dans ma carrière, dans ma vie personnelle aussi depuis des années, c'est en éducation, c'est de... d'apprendre les gens à apprendre. Mais je pense que, comme pédagogue, comme professeur aussi, et spécialiste en technologie, c'est que, une fois qu'on enseigne à l'autre à apprendre à apprendre, il va être capable de faire les restes, pas seul. Il va être capable de se débrouiller. Il va être capable de naviguer dans toutes ces questions-là, dans toutes les sphères, mais surtout en éducation, chez nos étudiants, chez nos enseignants. Pour moi, ça répond à beaucoup de questions. Ils vont être en mesure de vivre dans cette société où nous sommes aujourd'hui. Je finis avec ça, avec ce point-là.
Florence, comme anthropologue, entre autres. C'est intéressant comme point de vue.
Là, en fait, je vais reprendre peut-être ma casquette, parce que je n'ai pas tout dit, mais je suis prof aussi de littérature.
C'est maintenant que tu le dis.
Oui. Mais bon, j'ai quitté un peu le monde, en tout cas de la littérature, il y a quelques années. Mais il y a quelque chose, ce qui m'a emmenée en fait à la littérature, c'était une citation de Rabelais qui était « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et d'ailleurs, que je pense que c'était la meilleure note de ma vie. Je pense que c'est pour ça que j'ai retenu cette citation de Rabelais. Mais je me rends compte, en fait, que à l'époque, en tout cas, je pense que je devais être au secondaire, début du secondaire, quand je travaillais, en fait, sur ce projet, de savoir ce que ça voulait dire. Je sais pas comment je me suis dépatouillée, mais en tout cas, j'ai eu une bonne note. Mais je me rends compte, en fait, que plus j'avance dans le milieu de l'enseignement, plus j'avance aussi dans le milieu de l'innovation en pédagogie numérique, plus je vois aussi comment s'introduit, en fait, ces technologies-là disruptives comme l'intelligence artificielle générative, plus je me rends compte que cette citation de Rabelais, elle prend tout son sens dans le retour aussi à notre humanité, comme on disait, le retour sur soi. Mais le retour aussi qu'on a les clés, on a la possibilité et les clés, parce qu'on connaît la technologie et parce qu'on a appris à la connaître, de mieux l'appréhender et de mieux prédire ou prévenir, mieux que guérir comme on dit, mieux prévenir les dysfonctionnements ou je dirais les débordements que peut nous imposer cette technologie si on ne sait pas se l'approprier. Donc il y avait Nadia Nafi, de l'université de Laval, qui disait en fait que elle sentait même que c'était même presque criminel de ne pas permettre non seulement aux étudiants, mais en tant qu'enseignant aussi, ou en tant que pédagogue praticien, de ne pas prendre conscience de l'importance de développer une littératie en IA. Parce que, veut ou veut pas, on l'a dit plusieurs fois, on le lit tout le temps, on n'est pas parti pour... C'est pas une mode, là. C'est pas une mode, c'est pas un téléphone qui se ferme ou quoi. Là, c'est vraiment, comme l'arrivée d'Internet, une technologie qui va être disruptive et qui va amener, comme tu citais nos enfants, en tout cas, qui va amener les générations futures à fonctionner autrement. Est-ce que cette technologie va être amenée à nous gérer, nous ? Là, je rentre dans le scientifique sensationnel Matrix. Ou est-ce que c'est nous qui allons prendre la main sur cette technologie et éviter les débordements? Donc, c'est en soi où je me dis que, voilà, cette notion de Rabelais, et puis c'est loin, hein, c'est très loin, là. Je pense que ça part du Moyen-Âge, mais en tout cas, je trouvais que c'était même prémonitoire par rapport à tout ce qui se passe, en fait, actuellement, aujourd'hui. La technologie, ne nous laissons pas, diriger par une technologie qu'on a nous-mêmes créée. D'où l'importance d'avoir cette conscience que la littératie en IA, c'est un incontournable.
Wow, quelle conclusion! Je suis tellement reconnaissant de vous avoir autour de la table ici, puis d'avoir partagé toutes vos idées. Merci beaucoup. Merci à chacune d'entre vous. Et en espérant de poursuivre la conversation sur la littératie pendant toute l'année 2024, ça va être une année importante. Ça va être un mot-clé, j'espère. Et puis, bonne chance chacune dans vos projets.
Merci beaucoup, merci, oui, merci pour l'invitation. Beaucoup.
Ont participé à cette conversation Sandrine Promtep, professeure agrégée au département de marketing à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM, Florence Sedaminou Muratet, conseillère pédagogique et anthropologue pour Éductive Collecto, Sirleia Rosa, chargée de projet technopédagogique à l'École des sciences de la gestion, et Yves Mon, chargée de projet technopédagogique au Carrefour de l'UQAM. Musique par Copain Cop. Montage par Karl Aksinchak. Réalisation de Yves Mon. Rejoignez-nous sur le site collimateur.ucam.ca.